des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, c'est peut-être le temps de lâcher le livre que vous êtes en train d'écouter pour écouter l'émission des livres plein les oreilles, l'émission qui fait la part belle aux livres audio, aux livres sonores exclusivement. C'est Clotilde Seille qui vous parle. Aujourd'hui à l'émission, nous allons passer un bon moment en compagnie de Claudia Larochelle qui nous amène notamment dans l'univers de Sorge Chalandon et qui nous dira à son tour ce qu'elle a pensé de Sérotonine de Michel Houellebecq. Et puis nous aurons avec nous deux voix que vous aimez, deux voix bien présentes sur nos ondes, Marie Lalande et son tendre et cher époux Yvan Deslauriers, qui seront en notre compagnie pour nous amener dans deux ambiances tout à fait différentes. Celle des enfants, vous savez que Marie raconte chaque semaine des histoires à vos enfants via Canal M. Elle vous donne aussi de bonnes idées de lecture enfantine à cette émission. Et puis on sait depuis toujours que la lecture, c'est la porte ouverte à la curiosité, au monde, à la réflexion, à l'imagination. Bref, un enfant sans livre, sans histoire à découvrir, c'est un petit peu, tiens, un gâteau d'anniversaire sans bougie. Et puis Yvan, lui, va nous amener dans la densité, l'obscurantisme et le réalisme d'un écrit majeur dans l'œuvre de Curzio Malaparte. C'est le livre Caput. Et pour compléter le tout, si le temps le permet, je serai contente de vous faire découvrir ce que le livre audio peut vous offrir en termes de nouveautés. Alors, pour commencer, une chanson inévitable, incontournable même pour lancer cette émission et surtout le sujet du premier livre que va nous présenter Claudia Larochelle, un immense succès au son franchement vieillissant, cette chanson, mais qui va rappeler bien des souvenirs aux uns comme aux autres.
Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays et je lui dois ce que je suis. C'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Et c'était mon enfance. Et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse comme on est d'un pays. Grâce à eux je sais qui je suis. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose, posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Au nord, c'était les cons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond.
Enfant, Joseph s'était rêvé coureur automobile. Il s'imaginait mécanicien de stand, intégré au ballet des changeurs de pneus. Puis pilote au cœur d'une grande équipe, et champion, enfin, nous douchant au champagne depuis la plus haute marche. Mais mon père n'y a jamais cru. Les écuries abritent le bétail pour les voitures, disait-il. Notre pays parlait de terre et de charbon, pas de circuit automobile. Comme les paysans d'ici, il espérait que son fils reprenne la ferme et craignait que la mine l'enlève. Alors mon frère a passé son certificat d'études primaires, son brevet. Il est entré au lycée professionnel, réparant le tracteur de notre ferme à la nuit en se chronométrant, comme s'il s'affairait dans un paddock de Formule 1. Mécanicien, il est devenu apprenti dans un garage de Lens. Un an de perdu, dira-t-il plus tard. Jamais il n'a foulé l'asphalte d'un circuit automobile. Jamais il ne s'est approché d'un podium. Notre père avait raison. Et comme tous les gars d'ici, la mine a fini par le dévorer.
Bonjour Claudia.
Bonjour Clotilde.
Un extrait de ce livre de Sorge Chalandon dont vous nous parlez maintenant, qui n'est pas une nouveauté, mais on n'avait jamais eu l'occasion d'en parler à cette émission.
Non. Et chaque fois, Clotilde, vous me ramenez dans le temps, alors je suis toujours en train de me rappeler les livres que j'ai déjà lus il y a, il me semble, une éternité.
Oui, ben je le sais, mais en même temps, je me dis, ben oui, en plus, ça, pour moi, Chalandon, c'est tellement
c'est
essentiel.
Si bon.
L'écriture de ce bonhomme-là, comme on vient d'ailleurs de l'entendre, hein, c'est un extrait. On peut retrouver ce livre-là parmi tous les livres commerciaux qu'offrent toutes les plateformes que vous connaissez du nom. C'est pas la peine que je les rappelle ici. Alors, on a entendu les corons, évidemment, qui nous amenaient cette chanson de Bachelet, qui nous amenait à la vie de ces gens-là.
Ouais.
Et ce garçon-là qui rêvait d'être pilote de course et qui finalement, comme l'extrait vient de le dire, la mine a fini par le dévorer.
Ah oui, alors d'abord, je dois dire que Sorge Chalandon, c'est sans contredit l'un de mes écrivains préférés. Il est journaliste, il l'a été d'ailleurs à Libération, il est au Canard enchaîné aussi. Il a déjà remporté le prix Albert Londres, quand même, très grande récompense pour un journaliste. Oui, alors comme vous le dites, c'est un livre qui traite de la tragédie d'un coup de poussière qui est survenu en France. Ça a fauché la vie à 42 mineurs, on était en 1974. Et ce livre-là, c'est l'histoire d'un homme qui se rappelle son frère mort en ouvrier et qui veut se venger de la mine. Et d'ailleurs, cette histoire-là leur est dédiée à ces mineurs qui sont morts. Quand c'est arrivé, Chalandon, ou enfin le narrateur, là, je ne sais pas comment on peut le prendre,
mais moi,
voir.
Je fais souvent ça. Moi, je dis souvent ça. Je l'appelle souvent
oui,
le
hein.
narrateur.
En tout cas, l'alter ego de Chalandon, il avait 22 ans et ça, c'est une histoire qui l'a obsédé. Ah. Alors, il revisite les événements de l'actualité et je cite le temps qui dit, bon, il revisite les événements de l'actualité et se les réapproprie à sa manière. Alors, ça, Chalandon ne brode pas, il l'attrape puis passe au tamis la sensation. Alors ça, c'est tout bon, c'est tout vrai ce qui est cette citation-là dans le temps. Alors, la phrase, elle est courte chez Chalandon. Et en peu de mots, il rassemble tout. C'est clair, c'est limpide. Jamais il va abandonner son lecteur en cours de route. Il le maintient plutôt toujours sous tension. On sent aussi, et c'est ce que j'aime chez lui, l'urgence de dire. C'est dans cette urgence-là qu'il écrit. Et selon moi, c'est dans cette urgence-là que se font les meilleurs textes. Alors, chaque fois, on y sent la colère. Il y a une violence aussi, mais ça a sa place. Et colère et violence ne font pas mal. Elles sont canalisées à travers le cœur, donc, de cet homme qui est sans sensible et ça fait toute la différence. Et c'est, ça démontre aussi la réalité qui est crue, qui est stridente aussi. Alors, on est tout en lucidité aussi dans ce roman-là, Le jour d'avant. C'est paru chez Grasset.
Et je vous en propose, c'est rare, mais là, comme on avait un petit peu de temps, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, un deuxième extrait.
Il pensait à un peuple à part, à une armée de simples gens. Lui démontait des filtres à air et réglait des carburateurs. Eux fouillaient la terre pour éclairer le pays, chauffer les familles, produire le ciment, le béton, goudronner nos routes. Lui colmatait une fuite d'huile, eux travaillaient à notre confort. Il s'était imaginé sur une ligne de départ, il s'est retrouvé penché sur les moteurs. L'enfant glorieux était mort. Le héros avait renoncé. Il ne jouait même plus aux mécanos de Grand Prix en changeant des plaquettes de frein. Au soir, les mains honteuses de cambouis, il garait son vélo devant le portail de la fosse 3 bis et levait les yeux vers le ciel. Les molettes d'échevalement tournaient lentement. Elles racontaient le minerai qui monte au jour et les hommes qui descendent au fond. Il avait appris à imiter le souffle des beffrois d'acier. Il s'était entraîné, le regard rivé au poulie. Il jurait que ce vacarme était l'un des plus difficiles à reproduire, et l'un des plus beaux. N'importe qui peut imiter le chant du coq, mais le chant du travail, c'est une autre histoire, disait Jojo.
Les phrases courtes.
Hein. Toujours, oui, avec un souffle très rapide, très saccadé, oui. Beaucoup de rythme. Moi, j'aime le rythme chez Chalandon. Ça se lit très, très bien, très, très vite aussi, et c'est très clair, c'est très bien vulgarisé. On y est à chaque fois avec lui.
Les molettes qui montent au jour et les hommes qui descendent vers le fond.
Oui, oui, c'est ça, oui, vraiment.
Ben oui, c'est exactement ça. Quoi.
C'est froid, c'est humide.
Est-ce que M. Michel Houellebecq, que vous avez lu aussi, donc
oui.
son petit dernier, s'est retenu?
Toujours. Je lis toujours parce que je déteste le détester. Non, j'aime le détester, j'aime le haïr, j'aime cet homme-là avec haine. Alors, c'est un peu compliqué, on est dans les paradoxes à chaque fois quand on est dans l'univers de Michel Houellebecq, en tout cas quand on est une femme, quand on est féministe aussi, hein, je le précise quand même parce que c'est pas banal quand on aborde cette lecture-là. C'est Sérotonine, donc je vais vous parler de ce livre-là. Son plus récent, c'est paru chez Flammarion. On connaît Houellebecq, extension du domaine de la lutte, son premier roman en 1994. C'est lui là, qui l'a lancé, plateforme, les particules élémentaires. C'est chaque fois un événement aussi. Il y a eu un embargo sur ce livre-là. Alors moi, j'ai failli faire de la prison. Parce que non, c'est parce que si on en parlait avant, on pouvait faire
C'était incroyable.
C'était réglementé, tout ça. Puis je comprends parce que c'est un événement, puis blablabla. En tout cas, tout ça pour vous dire que maintenant, on peut en parler. C'est son 7e roman. C'est l'écrivain français le plus lu dans le monde. Je veux dire, l'écrivain français contemporain, je le précise, ce serait, selon les données, c'est l'enfant terrible des lettres françaises, il a 62 ans. Il suscite beaucoup de réactions. Soumission, juste pour vous donner une information comme ça, son précédent roman s'était vendu à 800 000 exemplaires. Là. C'est quand même pas banal. Ouais. Alors, cette fois-ci, il campe son histoire, son narrateur, qui est agronome comme lui, dans la France rurale. C'est une France qui est à feu et à sang. Et à travers ses manifestations sociales, parce qu'il y aura ça dans le roman, des manifestations sociales, il y a son regard qui est triste et morose, un regard qu'il pose sur ses amours passés, sur une sexualité aussi qui est anéantie par les antidépresseurs, d'où aussi le titre « Sérotonine ». Il va vivre une crise nostalgique qui est percutante, qui nous rend déprimés aussi du même coup, parce qu'en le lisant, on ramène l'histoire à nous, à nos combats, aux combats qui sont les plus personnels ou les plus intimes aussi. Alors, le parallèle entre les thèmes du récit de ce nouveau roman et le mouvement des Gilets jaunes aussi, il est criant. C'est aussi ce qui est frappant dans l'histoire et ce qui est ébranlant pour nous, lecteurs. Alors, je le disais en début de chronique, c'est l'écrivain que j'aime le plus haïr. Il me fait sourciller avec un sourire aussi. C'est un macho. Oui, ça m'exaspère parfois, mais il révèle en même temps, et c'est ce qu'il sauve un peu dans mon esprit à moi, c'est qu'il révèle une super fragilité. Il y a beaucoup d'autodérision, une franchise aussi qui est désarmante. Et c'est ce qui le rend touchant aussi.
Oui, c'est ça, parce qu'il paraît qu'il en est même bouleversant parfois.
Oui. Oui, hein? Je me dis, mais quel aveu, mais quelle confession.
Oui, exactement.
Ici, la ligne est très mince entre le personnage et la vraie vie aussi, entre l'homme qui parle, l'homme qui écrit, entre le personnage. Alors, il est dans une espèce de lucidité. Il est dans la lignée de ses auteurs, ses écrivains qui sont clairvoyants, comme la Margaret Atwood que j'aime, grande écrivaine canadienne, qui voit les courants chauds arriver avant nous. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas si c'est par une conjoncture d'instinct,
d'intelligence. Oui, parce que depuis, il y a eu les Gilets jaunes.
C'est ça qui me fascine. Chez ces écrivains-là, ils voient les choses arriver. Je ne sais pas, ils ont une manière à eux d'observer et d'interpréter le monde. Moi, ça me fascine. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils commentent et qu'ils prédisent aussi cette espèce de misère affective et économique de la société française. Personne ne parlait ou commentait ça comme lui avant, dans les journaux ou ailleurs. Donc, il fallait le faire. Et il le fait encore à chaque roman. Il recommence. Il ne suit pas la vague non plus. Il ne se conforme pas. Et ça demeure une star du livre, comme il y en a peu en littérature aussi. Hein, il y a au moins le mérite de mettre la littérature à l'avant-scène, de rendre ça presque glamour. Et même s'il se laisse aller comme c'est pas possible dans la franchise, ça fait aussi partie du personnage.
C'est comme quand par exemple, que la vie professionnelle, pour sa part, elle est complètement foutue. Je croyais pas y avoir pensé plus d'une demi-minute à la vie professionnelle. Il me paraissait invraisemblable qu'on s'intéresse sérieusement à autre chose qu'aux filles.
Ouais.
Et le pire, c'est qu'à 46 ans, je m'apercevais que j'avais eu raison à l'époque. Les filles sont des putes, si on veut, écrit-il. Mais ça, c'est lui. On peut le voir de cette manière. Mais la vie professionnelle est une pute bien plus considérable et qui ne vous donne aucun plaisir.
Ouais. Mais oui, je sais qu'on grige des dents, mais on ne grige pas des dents de la même manière qu'on peut le faire quand on lit un Yann Moix aussi. Vous voyez un peu le genre... Yann Moix, c'est un et lui, c'est un grand auteur. Alors, il faut le dire, c'est la différence aussi qui entre les deux. Je donne cet exemple-là, mais ça pourrait être d'autres auteurs aussi.
Et on va passer à un grand raconteur d'histoire.
Oui.
Parce que pour moi, c'est un grand raconteur d'histoire. On parle de Lemaître, qui porte bien son nom. Pierre Lemaître, Couleur de l'incendie. Est-ce que c'est réellement la suite de Au revoir là-haut?
En fait, c'est le second volet de la trilogie.
C'est ça.
Amorcé avec Au revoir là-haut, qui avait remporté le Goncourt en 2013. Il y a même un film aussi qui est à l'affiche, un film...
Super d'ailleurs.
Oui, c'est
magnifiquement
ça, tout à fait. Alors, on lève le voile cette fois sur sa sœur, la sœur du personnage, Madeleine, en 1927. Madeleine la Forte, dont le mari croupit en prison et dont le père, Péricourt, vient de mourir. Alors, elle va se retrouver seule à la tête d'un empire bancaire. Et pour l'époque... c'était du jamais vu ça. Alors, puisqu'un malheur ne vient jamais seul, au moment des obsèques, tragiquement, son jeune fils, Paul, va se jeter par la fenêtre. Alors, on n'a même pas besoin d'avoir lu le premier tome pour être renversé
par
cette histoire-là.
Et je vous propose un extrait tout de suite, allons-y. Parce que l'heure tourne, mon ami, comme toujours. Avec vous, ça passe toujours trop vite. La prochaine fois, c'est vraiment 30 minutes qu'il faut que je vous donne un extrait, s'il vous plaît.
La rumeur se répandit que le cercueil allait enfin descendre. Dans la cour, le prêtre en chape noire et argent précéda les enfants de chœur en soutane violette et surplis blanc. L'ordonnateur consulta discrètement sa montre, monta à pas compter les marches du perron pour avoir une vue plus globale de la situation et chercha du regard ceux qui devraient, dans quelques minutes, conduire le cortège. Tous étaient là, à l'exception du petit-fils du défunt. Or, il était prévu que le petit Paul figure en tête, auprès de sa mère, tous deux légèrement en avance sur le reste du convoi. C'est une image qui plaisait toujours beaucoup, un enfant derrière un corbillard. D'autant que celui-ci, avec son visage lunaire, ses yeux un peu cernés, donnait une impression de faiblesse qui ajouterait au spectacle une note très émouvante.
Et le petit Paul ne reviendra pas, il ne sera pas là, ni là, ni dans les pages suivantes.
Jamais, il n'est plus là, il n'est plus de ce monde. Pierre Lemaître, c'était qu'on entendait.
Oui, c'est
voix.
Parce que c'est lui qui lit, c'est ça.
Créateur d'atmosphère. Rares qui, en plus de maîtriser le suspense, possède une espèce d'écriture complètement efficace, franche. Ses personnages sont nuancés, il les dissèque bien en peu de mots. C'est un roman féministe aussi. Et en même temps, on est presque dans le roman social, dans sa plus pure tradition, à l'exception qu'on ne dépeint pas ici une réalité qui est ouvrière, plutôt une réalité bourgeoise. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il se démarque beaucoup. Et je pense que ces romans à Pierre Lemaitre traversent le temps aussi. Ils sont très actuels en même temps, même s'ils se déroulent à une autre époque.
Merci beaucoup.
C'est un plaisir.
Hein, Claudia La Rochelle, encore une autre. Bientôt, Stephen King et compagnie qui vont bientôt être enregistrés, j'imagine.
À l'Outsider, oui.
Ah, à l'Outsider.
Wow.
À ce point-là.
À plus tard.
Je nous plonge dans une atmosphère qui n'a rien à voir avec celle de Stephen King. Je nous plonge dans l'univers de Félix Leclerc, qui sait faire de la prose aussi.
J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples à Finance où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils révolté, un fils humilié, un fils qui demain sera un assassin. Alors moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide, au secours, quelqu'un. Le gros voisin d'en face s'est accouru, armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes et lui casser les reins, le dos et la tête et le bec et les ailes à l'ouette. Ah, mon fils est en prison. Et moi je sens en moi, dans le tréfonds de moi, pour la première fois, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère.
Yes, gentlemen, can I help you? Ah. And your name is?
Félix, madame. Félix Leclerc.
Allô, allô, les gens de la TUC, m'entendez-vous?
Cette carte est remplie de découvertes.
Québec, c'est où, maman?
Tout ce qui est à droite, c'est la province de Québec. Puis, c'est quoi les bords rouges?
Ça, c'est ce qu'on ne connaît pas encore.
Est-ce qu'on va pouvoir y aller pour vrai?
Quand le chemin est beau, allez loin.
On a pensé que quelqu'un puisse partir pour un endroit qui n'existe pas.
Tu penses qu'il y a tout ce qu'il faut?
Inquiet pour lui. Il sait lire dans nos gestes, sa tête travaille sur tout ce qu'il voit.
Tu n'es pas à l'école? Je ne vais pas dans la salle avec les pupilles de vernis, moi.
C'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre, c'est ça?
C'est pas juste dans le ventre que ça gruge la pauvreté. C'est dans le regard des gens aussi.
Les hommes que nous sommes ont trouvé à tracer des passages entre les mondes.
Si tu m'avais attrapé dans un piège, on ne serait jamais devenu amis.
Au Félix, j'ai eu réponse de mon collègue d'Ottawa. Ils vont le prendre en septembre prochain.
Une belle chance que tu as d'aller là-bas. Ça t'amènera plein de nouveaux possibles.
Tu es attiré par une fille?
C'est un jeune garçon.
Pourquoi vous dites ça?
Ben,
tu parles de ça, les voyages?
Ben non, c'est pas les voyages le problème.
On est là tout seul, sans vous.
Toi, t'as un don. Le français, l'art, la musique. Je sais pas vers quoi tu marches, mais t'avances.
« Ça, c'est la bande-annonce du film de Francis Leclerc, le fils de Félix, Pieds nus dans l'aube, sorti il y a maintenant quelques mois, pour nous amener au livre audio. C'est paru, ça a été produit par Radio-Canada, livre audio, Pieds nus dans l'aube. C'est lu par, comment il s'appelle, Théodore Pellerin, le jeune Théodore Pellerin. C'est vrai que Félix, on en parle souvent comme d'un auteur de chansons, comme d'un poète fantastique, mais c'est un homme de prose aussi. Quand il écrit des choses comme « J'ai deux montagnes à traverser, deux rivières à boire, j'ai six vieux lacs à déplacer, trois chutes neuves à mettre au lit, 18 savanes à nettoyer, une ville à faire avant la nuit. » Évidemment, ça sonne aussi beaucoup chanson. Mais... Alors nous voilà dans cette histoire empreinte à l'enfance de Félix, l'année de ses 12 ans d'abord. On est à la TUC. Et on est parmi les familles, la sienne, toutes des familles nombreuses, avec son ami Fidor, le petit rebelle audacieux qui connaît mieux les arbres que les bancs de l'école. Et puis, bien, tout ce qui fait le monde des adultes et qui finit par faire vieillir les enfants, les gens malades et ceux qui disparaissent, ceux qui s'absentent, comme le père. Une histoire, mais comme on les aime, hein, qui nous ramène à ces traditions, qui nous ramène à un mode de vie qu'on aime ne pas oublier. Pieds nus dans l'aube, je vous propose, avant qu'on finisse cette première demi-heure, un extrait de ce livre-là.
De bas en haut, de haut en bas, notre chez-nous était habité. Par nous au centre, comme dans le cœur d'un fruit, dans les bords par nos parents, dans la cave et la tête par des hommes superbes et muets, coupeurs d'arbres de leur métier. Sur les murs, les planchers, entre les poutres, sous l'escalier, près des tapis, dans le creux des abat-jours, vivaient les lutins, le bonhomme 7 heures, les fées, les éclats de chant, l'ustu cru, les échos de jeu. Dans les veines de la maison courait la poésie. Nous avions la chaise pour nous bercer, le banc pour faire la prière, le canapé pour pleurer, l'escalier à 2 marches pour jouer au train. Aussi, de ces jouets savants que nous n'osions toucher, telle cette bête à 2 fils, au long bec, sonnerie au front, qui conversait avec les grandes personnes. Un prélard fleuri devenait un parterre. Un crochet, c'était l'écrou pour rouler les câbles de nos bateaux imaginaires. Les escaliers servaient de glissoires, les tuyaux le long du mur, de mâts, et les fauteuils. De saints, nous nous apprenions avec les chapeaux, les gants et les paletots des aînés, les grimaces que nous faisons aujourd'hui sans rire.
Ah là là, les mots, les images, la plume de Félix et cette voix fantastique, celle du jeune comédien Théodore Pellerin, un comédien qui, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, Claudia La Rochelle en tout cas l'était, pour dire que ce jeune-là, on va en entendre bien, bien souvent parler. Voilà, je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Say, c'est l'émission Des livres plein les oreilles. On se retrouve en seconde partie avec Marie Lalande qui sera là, ainsi qu'Yvan Deslauriers. Avec Yvan Deslauriers, on va être dans l'univers sombre de Malaparté et avec Marie Lalande dans l'univers lumineux des histoires à raconter aux enfants. Vous restez avec nous. Merci. Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors, en seconde partie de cette émission, on va passer de l'univers sombre de Malaparté, lu par Yvan Deslauriers, à celui lumineux de Marie Lalande. Marie, qui sait si bien raconter des histoires, ou plutôt, non, tiens, on va faire le contraire. On va commencer par se faire raconter de belles histoires, hein, comme celle que vous pouvez entendre dans le cadre de l'émission Marie raconte à Canal M. Mais juste avant, allez, une chanson.
Les soirs, les soirs, les soirs, les soirs. raconte-moi une histoire. Va chercher au fond de ta mémoire une fable, un conte, mais il faut que tu racontes, car tous les enfants sont comme moi. S'il te plaît, raconte-moi une histoire, même si elle est difficile à croire. Au fond de ta mémoire, avec des châteaux, des chevaux, des petits nains magiques et des ogres doux comme des agneaux.
Tous les enfants ont besoin de fées et de princes charmants.
Ils inventent un monde bien plus beau que notre monde, dont ils sont les
Marie Lalande.
Mais oui, Clotilde Seille.
Inévitablement, cette chanson-là, comment c'est tellement mignon. J'ai fait des fouilles archéologiques sur le net pour trouver ça. Je ne sais même pas qui chante ça.
Mais non, moi non plus.
C'est terrible. Mais tant pis, merci à cette madame et à ces petits sourissimos
de
la
nous salue,
avoir.
Oui.
On la salue, bien évidemment. Marie Lalande, Marie Racon, bonjour. Rappelez-nous d'abord cette émission, tout de suite, Lala. Quand est-ce que les gens peuvent l'écouter?
Les gens peuvent l'écouter le dimanche, tous les dimanches, à
en
8h30,
direct.
En direct. Et c'est rediffusé à 18h30. En fait, on peut l'écouter sur le web, on peut l'écouter à Canal M.
À Canal M, bien sûr.
Oui.
Bien sûr, bien sûr.
Et elle n'est pas disponible en téléchargement. C'est une question de droit d'auteur.
C'est ça, et ça se comprend. L'important.
Alors, c'est un rendez-vous.
C'est un rendez-vous, mais on va le redonner d'ailleurs, ce rendez-vous-là, Marie-Lalande. L'importance de raconter des histoires à nos enfants, l'importance de la lecture pour l'imaginaire notamment. C'est essentiel, Saint-Marie.
C'est essentiel pour l'imaginaire, c'est essentiel pour donner aux enfants des bases pour quand ils entreront à l'école, puis pour les conserver, ces bases-là. L'idée étant que quand on se fait raconter des histoires, on est mis en contact avec une langue qui est différente que la langue qu'on utilise pour parler, la langue écrite. Et on met les enfants devant, quand on leur raconte cette histoire, on fait en sorte qu'ils entendent le rythme, ils entendent les intonations, on les met en contact avec les moments forts de l'histoire. Et quand ils arrivent à l'école, ils ont déjà un peu cette base-là.
Oui.
Ils sont mis en contact avec du vocabulaire, des mots qu'on n'utilise pas nécessairement dans la langue parlée. Alors, c'est un plus.
Une syntaxe aussi.
Oui, tout
souvent,
à fait. Et juste le fait de dire que quand on parle, il n'y a pas un espace entre chaque mot, mais quand on écrit, oui. Juste reconnaître ça, le monde de l'écrit, on lit de gauche à droite, on écrit de gauche à droite. L'écriture, c'est linéaire, c'est un monde, l'écrit. Saviez-vous ça? C'est Dominique Demers qui disait ça.
OK, non,
que selon les statistiques, 60%, voire 70% des enfants au Québec ne se sont jamais fait lire une histoire.
C'est épouvantable.
C'est troublant. Puis que
ben,
comme
c'est moche.
C'est moche, Père. Alors moche. Moi, je me suis donné comme mandat
tout, oui.
toutes les semaines de mettre les enfants en contact avec un livre différent. Mm-hmm. Et non seulement je le lis, mais je le raconte. C'est pour ça que ça s'appelle Marie raconte, parce que dans les livres pour enfants, il y a des illustrations qui sont parfois aussi, sinon plus importantes que le texte. Et moi, je trouve ça important que les enfants puissent voir sans voir. Mm-hmm. Puis je pense à la clientèle de Canal M, mais je pense à tous les enfants, parce que quand on est à la radio, on ne voit pas
mais
le
non,
livre.
Mais
alors, je parle des illustrations.
Alors, Marie, on va donner le goût à tous les enfants et sûrement plus peut-être tous les parents en ce
j'espère.
Moment qui nous écoutent
oui.
de vous écouter, leur raconter des histoires. Je voudrais que vous arriviez avec deux livres. Alors, le premier, par exemple, de
le
quoi
premier,
s'agit-il?
Le premier, par exemple, c'est le livre que je vais lire le dimanche le 31 mars.
D'accord.
Donc, dimanche qui
dimanche
vient.
Dimanche qui vient.
Ça s'appelle « Silence
uh-huh. ».«
Silence », point d'exclamation. En fait, on pourrait crier « Silence ». C'est Céline Claire qui a écrit ça. C'est Magali Lehuche qui fait les illustrations. Et c'est édité par Comme des géants.
Okay.
Alors, sur la page couverture, on est dans un village, quelque part. En fait, c'est une place. Puis, il y a quelqu'un à sa fenêtre, en fait, un monsieur qui crie « Silence
ah, !» Et à sur toute la rue.
À toute la rue, parce que sur la place, il y a l'air d'avoir des gens du cirque.
Oui, c'est ce vraiment, que j'ai, un cirque ambulant,
un
peut-être.
Un cirque ambulant.
Des enfants qui jouent.
Il y a plein de monde, plein de bruit. Et ce monsieur-là, je vous lis la quatrième de couverture, il s'appelle Monsieur Martin. Et il aime la tranquillité. Ses voisins le savent, mais il l'oublie facilement. Exaspéré par tout ce bruit, M. Martin décide de prendre les grands moyens. Alors, je vous en lis un petit bout.
Attendez, parce qu'on va vous mettre dans le contexte.
Oui, mettons-nous dans le contexte.
Allons-y avec les petites clochettes.
Oui.
On dirait qu'on est dimanche.
On est presque dimanche.
Avec Marie raconte.
Alors, ça commence comme ça. Bonjour. C'est Marie Lalande et c'est Marie raconte. Alors, silence. Et sur la page titre, il y a ce monsieur Martin qui est à côté de sa baignoire. Son chat est aussi à côté de la baignoire et il verse quelque chose dans la baignoire, se demande ce qu'il fait. Je commence. Monsieur Martin aimait la tranquillité. Il est dans son salon, il est assis sur sa berçante avec son chat sur les genoux. Il est heureux, il est tranquille, tout seul chez lui, sa fenêtre est ouverte. Boire son café dans le calme, lire son journal sans bruit, faire une petite sieste en paix. Oui, M. Martin était un homme qui aimait avant tout le... Et là, il ouvre un œil, M. Martin. Il y a quelque chose qui le dérange à l'extérieur. Il s'approche de la fenêtre et il crie « Silence !» Parce qu'il y a effectivement un cirque ambulant sur la place publique. Ses voisins l'avait bien compris, alors il faisait tout doucement. Ils y pensaient les 5 premières minutes. Mais puis ils y pensaient moins. Et encore un peu moins, et là je ne vous décris pas, mais le cirque ambulant, là, écoute, il y a un éléphant sur la place publique.
Mm.
Il y a des chiens savants, il y a des gens qui font... du trapèze. En tout cas, il y a plein de bruit. Tout le monde fait du bruit. Et donc, les gens finissaient par oublier que M. Martin était un homme qui aimait avant tout le silence. Il n'en pouvait plus de ses voisins qui ne respectent rien. Leur bruit lui cassait tellement les oreilles qu'il alla chercher de l'aide. Et la suite de l'histoire, c'est dimanche.
Dimanche à quelle heure? Rappelez-nous ça.
8h30. Rediffusion 18h30.
Et je suis ravie parce qu'on a le temps pour un deuxième
oui.
bouquin. Est-ce que c'est celui que vous présenterez dimanche dans 8 jours?
La semaine d'après, donc le 7 avril, on s'en va dans un monde complètement différent. Le monde de Chen Jianghong, qui est un peintre d'origine chinoise. Il est né, attendez que je vous dise... Le bruit des pages qui
Mais
tournent.
C'est tellement fantastique. Ouais. On parle de livres, c'est normal qu'il y ait des pages qui se tournent.
Il est chinois, il est né en 63. Il a été formé aux Beaux-Arts à Pékin. Et il vit maintenant à Paris et il expose. Et c'est vraiment quelqu'un de très connu là-bas. Il utilise une technique traditionnelle à l'encre de Chine sur du papier de riz. Et
c'est
ce
magnifique.
Livre s'appelle « La légende du cerf-volant ». Mmh. Alors, c'est une histoire dans une histoire, l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Dong Dong et qui, avec son grand-père, ils ont confectionné un cerf-volant en forme de dragon qui est magnifique. Et il est très malheureux, Dong Dong, parce que la corde de son cerf-volant s'est brisée et son grand-père va lui raconter la légende du cerf-volant, légende. Donc, c'est l'histoire dans l'histoire. On est en Chine, on est à Pékin, puis on voyage d'une époque à l'autre. La modernité maintenant, où il y a un festival de cerf-volant chaque année. Et cette légende-là, qui est comme l'historique de ça, si vous voulez, où c'est l'empereur qui veut capturer mm-hmm. une belle. Et en tout cas,
on va avoir un extrait.
On va voir.
Alors, clochette, s'il vous plaît.
En Chine, au printemps, chaque année, le ciel au-dessus des toits s'emplit soudain de couleurs vives. C'est la fête du cerf-volant. Très tôt ce dimanche matin, le jeune Dong Dong et son grand-père arrivent, place de la cité interdite, munis de leur cerf-volant à eux. Ils l'ont fabriqué de leurs mains, avec amour, et ils l'ont baptisé Grand Dragon. Tout l'hiver, Dong Dong n'a vécu que pour cette minute exaltante où son cerf-volant s'envolerait enfin. À présent, sa fierté est immense. Tout le monde autour de lui s'extasie sur le grand dragon qui évolue là-haut avec Maestria dans toute sa splendeur. Hélas, le fil ne résiste pas à la force du vent. Il casse et voilà le grand dragon livré à lui-même et qui s'en va en tournoyant dans les rafales pour terminer sa course folle en se déchirant au toit du temple. Dong Dong fond en larmes. Quel malheur, nous avions mis si longtemps à fabriquer notre cerf-volant. Son grand-père le console. Ne pleure pas, Dong Dong, nous en ferons un autre et cette fois nous l'attacherons à un fil solide. Dong Dong voudrait au moins récupérer l'épave du grand dragon. Son grand-père l'en dissuade. Comme tu sais, la cité interdite était un lieu réservé à l'empereur. Aujourd'hui, on n'a toujours pas accès au temple. L'enfant ravale ses pleurs. Le vieillard lui caresse le front. Sais-tu au moins pourquoi nous voyons aujourd'hui tant de cerfs-volants au-dessus de nos têtes? C'est une belle histoire. Je peux te la raconter. Dong Dong oublie son chagrin. Ses yeux s'allument. Ah, oui, grand-père, s'il te plaît. Et la suite? Dimanche le 7 avril.
Le 7 avril, alors voilà. Rappelez-nous à quelle heure Marie raconte avec cette délicieuse voix que vous avez entendue, tout gentil. En douceur. Oh, qu'on en prend.
C'est gentil. Alors dimanche, Marie raconte, c'est les dimanches, à 8h30 le matin et à 18h30.
En reprise. Merci tellement, Marie.
Ben, merci tellement. De rien tellement. Mais merci à vous.
Non, mais c'est... Oui, je me suis dit, à un moment donné aussi, il faut qu'on fasse un petit peu d'autopromo.
Un petit peu de convergence ici.
Ben, tout le monde en fait. Pourquoi pas
ben
nous?
Oui, pourquoi pas.
Merci, Marie Lalonde.
Merci, Clotilde.
Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants, ils vont m'entendre. Je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent. Un cheval rouge, un cheval blanc. Puis j'attellerai les chevaux du vent. Un cheval rouge, un cheval blanc. Un cheval pire. Puis j'attellerai les chevaux du vent. Et nous irons voir tous les océans s'ils sont en vie. Si les océans sont toujours vivants. Par-dessus les bois, par-dessus les champs. Un oiseau rouge, un oiseau blanc. Par-dessus les bois, par-dessus les champs. Un oiseau rouge, un oiseau blanc. Un oiseau lyre. Par-dessus les bois, par-dessus les champs. Qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire. Bombe de silence et couteau d'argent.
feu et à sang. Un soleil rouge, un soleil blanc. Nous mettrons le mal à feu et à sang. Un soleil rouge, un soleil blanc. Un soleil sombre. Nous mettrons le mal à feu et à sang. Un nuage monte, un autre descend. Un jour sans ombre. Puis nous raserons la ville en passant. Quand nous reviendrons le cœur triomphant. Un côté rouge, un côté blanc. Quand nous reviendrons le cœur triomphant. Un côté rouge, un côté blanc. Un côté homme. Quand nous reviendrons le cœur triomphant. Alors vous direz ce sont nos enfants. Mais quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents? Je remonterai sur mon cerf-volant. Un matin rouge, un matin blanc. Je remonterai sur mon cerf-volant. Un matin rouge, un matin blanc. Un matin blême. Je remonterai sur mon cerf-volant. Et vous laisserez vos 100 000 enfants chargés d'eux-mêmes pour jeter les dés dans la main du temps.
Ils vont dérouler des lauriers, oui, et non pas des rosiers. Vous allez, vous, nous ramener sur le plateau des vaches, et de façon un petit peu brutale. Là, on va quitter l'univers enfantin pour retrouver un univers pour le moins réaliste, assez violent, mais en même temps avec des grands moments de poésie. C'est l'univers de Monsieur Malaparté, Curzio Malaparté, et de Capoute, que vous avez eu la joie, l'honneur et le désavantage de lire.
et la difficulté.
Et la difficulté. Capoute, oui. L'un des deux chefs-d'œuvre hein, de Malaparté après La Peau.
Oui, d'ailleurs, Malaparté, c'était pas son nom.
Non, c'est ça. Hein?
Il est né sous le nom de Kurt Erik Soukert.
OK.
Et à un moment donné, vers 1929, il a décidé de changer de nom. Moi aussi, j'aurais fait ça. sauf que lui, il a pris le nom de Malaparté. Si on le prononce à la française, c'est Malaparte.
Bien sûr.
Alors, ce qu'il a dit de son nom, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est appelé Bonaparte et il a mal fini. Alors, moi, je vais m'appeler Malaparte et je vais bien finir.
On marquait bien fini, il est mort quand même assez jeune. Hein? Il est mort
en 1957, il avait 59 ans.
Bon, puis moi, j'arrivais, ça va.
Ah! Ouais. Toute modestie!
Et moi de même.
Oui, je pourrais dire la même chose. Alors, on est tous dans les mêmes eaux là-dedans. Alors, Malaparte, c'est un journaliste, un correspondant de guerre et un diplomate italien. Là, il faut se remettre dans l'époque. Donc, il représente l'Italie auprès de l'Allemagne. Donc, il va voyager à l'intérieur de l'Europe de l'Est, mais en soutien avec l'Allemagne. Donc, il va observer comment l'Allemagne va gérer sa guerre. Et on va voir que Malaparté avait un esprit critique extrêmement développé, en plus d'un esprit littéraire extrêmement fort. Dans ce livre-là, d'abord, je vais commencer par les difficultés. Moi, j'ai eu des difficultés parce qu'il connaît énormément de gens et il les nomme. Alors, à un moment donné, j'ai commencé à lire ce livre-là, puis ça avait l'air du name-dropping. On avait l'air de quelqu'un qui se présentait sur un tapis rouge, puis il présentait un tel, puis une telle. Mais il raconte des soupers, il raconte toute une aristocratie en parallèle de la guerre. Et d'une approche très ironique, il utilise ces histoires-là pour raconter comment, à partir de ça, la guerre s'est implantée. Le livre
vient de tomber. Malaparté vient de tomber, c'est pas grave.
Dans le vrai monde. Donc, par exemple, je vais vous faire tout de suite un petit extrait.
Oui, d'accord.
Pour vous donner une idée. C'est une histoire qui raconte à l'intérieur d'un souper avec champagne et tout ce qu'il faut, avec des dames qui l'écoutent. Et voici l'histoire. À un certain moment, l'officier s'arrête devant l'enfant, le fixe longtemps en silence, puis lui dit d'une voix lente, lasse, remplie de contrariété, « Écoute, je ne veux pas te faire de mal, tu n'es qu'un mioche. Je ne fais pas la guerre aux mioches. Tu as tiré sur mes soldats, mais je ne vais pas à la guerre aux enfants. Libergotte, mon Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai inventé la guerre. L'officier s'arrête, puis dit au garçon avec une douceur étrange, « Écoute, j'ai un œil de verre. Si tu peux me dire tout de suite, sans réfléchir, lequel des deux est l'œil de verre, je te laisse partir, je te laisse en liberté. » « L'œil gauche ? » répond aussitôt le garçon. « Comment as-tu fait pour t'en apercevoir ? » ?»« Parce que des deux, c'est le seul qui ait une expression humaine. »
Ben oui, c'est ça.
Alors, dans ce petit extrait-là, on a tout l'esprit de ce que nous raconte Malaparté.
Oui.
Alors, après la difficulté que j'ai trouvé d'avoir tous ces noms de personnes que je ne connaissais absolument pas.
Et en plus, qui sont tous allemands.
Avec la comtesse de, puis le comte de, puis ainsi de suite.
Bon, on va s'excuser.
Il y avait plein de
citations
aussi.
Voilà, ça, toutes les citations en allemand. On n'est pas forcément tous des spécialistes de la langue germanique. Alors, que les gens qui l'écoutent, là, ne s'arrêtent pas à ça. Je précise que c'est bien Yvan hein, qui l'a lu pour vrai, ce livre qui est maintenant disponible au SQLA. Je ne l'avais pas encore dit. Alors, il va nous amener sur le terrain.
Oui.
Et avec...
Et là, c'est tous les sens qui sont impliqués.
Voilà. Oui.
Il va nous faire voir le terrain. Il va nous faire sentir le terrain.
Ça m'a fasciné totalement.
Sentir les odeurs de brûlé, autant du matériel, le fer qui brûle, que du cheval qui est en train de pourrir. Oui. Il va nous faire entendre les cris, les sons. Il va nous faire vibrer à travers des cauchemars. Il va nous amener dans des histoires où la faim va nous jeter complètement par terre, glacé, vraiment glacé.
Absolument. Quelle écriture.
Oui.
Quelle écriture et quelle traduction, parce qu'évidemment, c'est une traduction qu'on a là.
Oui, tout à fait.
Mais d'ailleurs, je ne sais pas si la personne est nommée, je ne sais pas si c'est si important que ça, mais quelle belle traduction.
Traduit de l'italien par Juliette Bertrand.
Bon, une madame qu'on ne connaît absolument pas. Je voudrais, parce que moi, ça, c'est un passage qui m'a... Je suis en train de le lire, pour tout avouer. Et il y a ce passage-là, je l'ai lu hier soir, dans mon lit, très honnêtement, et j'étais littéralement fascinée. Je vous ai dit, s'il vous plaît, Yvan, lisez-nous ça. On va mettre dans le contexte les gens. On est quelque part en Russie.
On est en Finlande.
En Finlande, pardon.
Oui. C'est l'armée russe qui est dans une forêt en Finlande avec tout le matériel et les animaux, les chevaux. Mm-hmm. On est en Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de chevaux déjà, encore là. Il n'y a pas juste des tanks, il n'y a pas juste des avions.
Et on est intrigué, hein, si vous me le permettez, parce qu'au début, il y a un cheval à l'écurie qu'on est en train de nourrir avec ce qu'on a parce que tout le monde meurt de faim, les gens comme les animaux. Et le cheval a constamment l'œil tourné vers le lac.
Oui.
Et là, il est dit, il a l'œil tourné vers les chevaux. Et là, on se dit, les chevaux,
chevaux.
Et là, je vous laisse nous dire exactement ce paysage incroyable.
Alors là, l'armée russe essaye de sortir de cette forêt qui est juste à côté d'un grand lac. Le lac, à cet endroit, est peu profond. Pas plus de 2 mètres. Mais à une centaine de pas du rivage, le fond tombe à pic. Serré dans cet espace réduit, à cet endroit, le rivage s'incurve et forme une petite baie. Entre l'eau profonde et la muraille de feu, parce que le feu a pris dans la forêt. Alors là, c'est la panique. Là. On essaye de sortir de là, ça presse. Tout tremblant de froid et de peur, les chevaux se groupèrent en tendant la tête hors de l'eau. Les plus proches de la rive, assaillis dans le dos par les flammes, se cabraient, montaient les uns sur les autres, essayant de se frayer passage à coups de dents, à coups de sabots. Dans la fureur de la mêlée, ils furent pris par le gel. Là, je passe un paragraphe. Le jour suivant, quand les premières patrouilles de Sisit, c'est des soldats finlandais, aux cheveux roussis, au visage noir de fumée, s'avançant précautionneusement sur la cendre encore chaude à travers le bois carbonisé, arrivèrent au bord du lac, un effroyable et merveilleux spectacle s'offrit à leurs yeux. Le lac était comme une immense plaque de marbre blanc sur laquelle étaient posées des centaines et des centaines de têtes de chevaux. Les têtes semblaient coupées nettes au couperet. Seules, elles émergeaient de la croûte de glace. Toutes les têtes étaient tournées vers le rivage. Dans les yeux dilatés, on voyait encore briller la terreur comme une flamme blanche. Près du rivage, un enchevêtrement de chevaux férocement cabrés émergeait de la prison de glace. Puis vint l'hiver. Le vent du nord balayait la neige en sifflant. La surface du lac était toujours nette et lisse, comme pour un concours de hockey sur glace. Au cours des jours ternes de cet hiver interminable, vers midi, quand un peu de pâle lumière pleut du ciel, les soldats du colonel Miricalio descendaient au lac et s'asseyaient sur les têtes des chevaux. On eût dit les chevaux de bois d'un carrousel.
Quelles images! Curzio Malaparte, on ne s'étonne pas de dire que Caput s'est considéré évidemment comme un chef-d'œuvre, ainsi que La Peau, hein, qu'il a écrit en 1943 et celui-ci en 1949.
Il y a pas eu un film avec cette deuxième
Oui, exactement, exactement. Alors voilà, c'est pour ça que ça peut sembler parfois un peu ardu, ça peut sembler parfois un peu cru. Il tire souvent la couverture sur lui, mais... C'est un incontournable. C'est-à-dire, c'est quelque chose, à mon sens quand même, quitte à sauter des paragraphes.
Oui, oui,
honnêtement,
oui.
Moi, c'est ce que je fais. Oui. Mais quand je tombe sur celui-ci, ben, j'en ai pour mon argent. Quoi.
Oui, tout à fait.
On est d'accord, Yvan.
C'est un livre difficile.
Oui.
C'est un livre qui demande du travail, mais c'est un livre qui en vaut vraiment la peine.
Caput de Curzio Malaparte. Et c'est ainsi que se referme ce magazine des livres pleins les oreilles pour cette semaine. Je voudrais remercier mes invités Claudia Larochelle, Marie Lalande et Yvan Deslauriers de s'être déplacés en studio aujourd'hui. Merci aussi à Jean-François Roy qui est de l'autre côté. Je vais vous souhaiter une très très belle semaine, de très belles lectures et je vais vous retrouver avec plaisir la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Salut, salut.